Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Parfois, la course n'est pas seulement une petite balade au soleil, une petite balade bucolique, le chant des oiseaux, les beaux paysages, la belle vue. Non, ça peut être aussi difficile. Le vent, la pluie, il fait trop chaud, il fait trop froid, on est fatigué. Et puis, on a un point de côté. Et puis, on a cette grosse montée qui arrive où c'est une droite interminable. Alors, comment faire pour continuer à avancer? C'est la question qui m'a été posée cette semaine. C'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, la grande énergie, vous écoutez le conseil de Kilomètre 42, vous savez, chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer, préparer vos défis, tout en ayant une vie équilibrée. Je vais vous aider à vous transformer physiquement, mentalement, vous sentir en forme, plein d'énergie, en confiance pour vos défis, devenir champion, championne du monde, de votre monde. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui m'était posée par Fox. Comment on fait pour tenir longtemps quand c'est la mouise? Oui, c'est bien le terme qui est employé, la mouise. Vent, montée, point de côté, c'est l'exemple donné dans cette question. Mais en fait, on a déjà tous connu ça. On va dire c'est un peu inhérent à la course à pied, hein, aux conditions climatiques, au fait que ce soit une activité physique. Comment on fait pour gérer, hein, tout simplement, ces moments? Alors, j'en ai cité plein dans l'intro, hein. C'est vrai que il y a les exemples qui sont cités, vent de pleine face, voilà, ça peut être le cas. On peut faire face aussi à une belle montée, on peut avoir la pluie, on peut avoir de la grêle même, on peut avoir des conditions qui sont un peu fraîches ou un petit peu chaudes, on peut avoir soif, on peut être fatigué tout simplement, hein, parce que c'est une activité physique, et puis le fameux point de côté, aïe 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 le point de côté, mais on pourrait en rajouter d'autres, hein, comme les crampes, des choses comme ça. Le but aujourd'hui, c'est d'ajouter quelques outils psychologiques, hein, quelques petits outils psychologiques dans votre escarcelle, dans votre petit sac, voilà, dans votre cerveau en tout cas, pour vous aider à faire face à ces moments-là. C'est pas une réponse type qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un point de côté. Bon, déjà parce que on n'a pas vraiment trop les réponses, hein, sur les points de côté et les crampes, on a des éléments. Et puis il y a des choses sur lesquelles on peut pas faire grand chose. Hein, voilà, s'il se met à faire du vent, j'ai envie de dire, à part changer de route, de chemin, il n'y a pas grand chose à faire. Mais des fois, vous pouvez pas le faire. Des fois, vous pouvez tout simplement pas le faire. Si, par exemple, vous êtes dans une course, hein, et que vous avez le vent en pleine face dans une course, moi, ça m'est arrivé une année sur un semi-marathon à Vichy, ben, vous pouvez pas dire aux organisateurs, vous pouvez pas changer le sens là, parce que moi, j'aimerais bien courir le vent dans le dos. Non, ça marche pas, cette histoire-là. Alors, il peut y avoir d'autres stratégies. J'avais raconté comment j'ai essayé de m'abriter derrière quelqu'un qui était un peu plus large que moi, ce qui n'avait pas marché très longtemps. On est obligé hein, d'affronter cet élément-là. Une montée, c'est pareil, hein, surtout sur des courses, hein, on ne peut pas échapper à la montée. Alors, comment faire? Comment gérer ces moments-là? Alors, moi déjà, il y a un premier réflexe que j'ai toujours, c'est de commencer par ralentir. C'est vrai que quand ça devient très compliqué, très difficile, on peut avoir l'esprit un peu guerrier, combattant, de se dire « je continue à foncer le plus vite possible, aussi vite que je peux, pour que ça passe, etc., ça passera plus vite ». Il se peut que ça marche, mais il se peut aussi que lutter contre les éléments comme ça puisse vous épuiser et même vous dégoûter au bout d'un moment. Et puis, il y a certains éléments contre lesquels il est très dur de lutter. Si vous prenez le vent de pleine face, si c'est une ligne droite de quelques mètres, ça va. Si c'est une ligne droite de 3-4 km, vous avez le vent de pleine face, lutter contre ce vent n'est pas simple. Et je parle de course à pied, je pourrais parler de vélo parce que c'est encore pire. Alors c'est sûr, en vélo, le premier conseil qu'on m'a donné, c'est de dire « pars avec le vent dans le dos » quand je peux choisir mon chemin. Mais par exemple, l'été dernier, quand j'ai fait mon petit périple, et la route allait direction la mer, l'océan, il y avait le vent de face, et le vent de face pendant, non pas 10 minutes, 15 minutes, mais pendant toute la journée et même pendant une semaine complète. Et donc là, finalement, c'est surtout du dégoût, de l'épuisement, on se fatigue. Et si on essaye de lutter en disant « je vais aller le plus vite possible, je vais foncer », il y a un moment donné, ça marche pas. Sur les montées, c'est exactement pareil. On dit toujours, hein, notamment pour ceux qui font du trail, attention, la montée gagne toujours. Bah oui, la montée gagne toujours. Pourquoi ? Parce que elle nous fait forcer plus, le rythme cardiaque augmente, on est essoufflé, on est fatigué, et surtout, 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 on dépense beaucoup d'énergie, on transpire beaucoup, on est en surchauffe totale, et quand on arrive en haut, eh ben, on est épuisé, on n'est pas capable de repartir sur le plat en accélérant, en retrouvant une foulée normale, et en descente, on est fatigué, alors que la descente est aussi très traumatisante. En tout cas, en course à pied, en vélo, c'est un petit peu différent. Donc moi, ma première stratégie dans cette histoire, c'est souvent de ralentir. Un point de côté d'ailleurs, à part ralentir et même marcher, je veux dire, on peut marcher en montée. J'ai aussi marché quand j'ai le vent de face. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière dans les rues de Paris, au pied de Montparnasse, à une rue avec un vent, mais des rafales de vent en pleine face. Et ben, il y a un moment donné... Je trouve que le meilleur moyen, ça reste de marcher. Hein. Alors, soit de l'alternance course-marche, du style, on marche, 100 mètres, et puis on court un petit peu, un peu plus. Et puis, quand on sent qu'on est trop fatigué, qu'on lutte trop, bah, on remarche un petit peu pour faire baisser les rythmes cardiaques. En montée, c'est pareil, hein, c'est un peu le même truc. C'est quand ça monte raide, on marche. Quand c'est un peu moins raide, on peut courir un petit peu et on essaye de jauger un petit peu comme ça à quelle vitesse il faut avancer. Mais je trouve que c'est un premier réflexe important de se dire, c'est que il y a des fois, ça sert à rien de lutter farouchement, férocement et tout. Et le point de côté, de toute façon, lui, il a une tendance à nous arrêter un petit peu net. Hein. Là, c'est carrément pire. Donc, au lieu de lutter systématiquement, surtout si c'est sur de l'entraînement, si ce sont des séances où le but du jeu c'est de faire par exemple un kilométrage particulier, d'avoir une sorte de sortie longue dans lequel on dit bah je voudrais plutôt viser un temps d'effort, une sortie particulière, ça sert à rien de rajouter cet élément-là de fatigue en plus, hein, ou de pas bien, ou de pas se sentir bien, de se dégoûter, je le répète, de s'épuiser. Ça rajoute déjà une sortie longue peut être épuisante en elle-même, très fatigante. Mais si en plus on rajoute un truc en disant « je vais absolument tenir ma vitesse parfaite à ce moment-là », il y a des fois où en fait ça n'en vaut pas le coup. Alors bien sûr, dans les séances VMA, c'est un petit peu différent, mais même sur une séance VMA, moi je me rappelle sur piste hein, avec le club, des séances VMA avec le vent de face, il y a un moment donné, on a beau lutter, on n'avance pas, c'est comme ça, et on tient pas le rythme qui est prévu. Donc, jouer un peu avec les éléments, un petit peu ralentir, un petit peu changer de point de vue, c'est déjà une première chose. Ensuite, j'ai trois stratégies, notamment quand c'est un petit peu long, un petit peu longué, ou que on a un peu de fatigue qui monte, que voilà, trouver en fait des petites parades, les fameux outils psychologiques que je voulais vous donner, trois stratégies, trois petites parades. Alors, la première, moi, que je trouve qui marche très très bien, c'est de découper la sortie en morceaux. Là, c'est au lieu de voir dans sa globalité, c'est de découper en morceaux. Mais c'est exactement le concept en fait de l'escalier, j'ai envie de dire. Si vous avez une grande montée, une montagne devant vous, soit vous la regardez dans sa globalité, soit vous regardez qu'il y a des escaliers, et puis vous comptez marche par marche. Vous dites, une marche, deux marches, trois marches, ou alors vous pourriez faire avec des virages, par exemple, aussi. Hein, ça peut être des choses comme ça. Je me rappelle, quand j'étais gamin, quand on faisait des montées dans les Alpes avec un gros sac à dos, il y avait des virages, on se disait, jusqu'au virage suivant, puis au virage suivant, puis quand on arrivera là, on fera une pause, et puis on repartira, virage suivant, virage suivant. Bon, c'est une moyen, hein, c'est un moyen en tout cas de décomposer, en petits morceaux, et l'objectif ne devient pas la globalité, mais le petit morceau. Voilà, on se dit, je prends le kilomètre. Alors, ça peut être kilomètre après kilomètre. Par exemple, dans l'alternance course-marche, c'est assez intéressant parce que pour revenir, parce que j'ai eu des commentaires, par exemple, sur la méthode Cyrano, sur la méthode d'alternance course-marche, je l'avais dit que le fait de découper, par exemple, en kilomètres, de dire je vais courir 900 mètres et marcher 100 mètres, donc ça fait un bloc de 1 kilomètre, au lieu, par exemple, de dire je vais faire 10 kilomètres, je vais faire plutôt des blocs de 900 mètres, 1 km, et donc l'objectif, c'est juste de faire mon bloc. Hop, je fais mon bloc. Hop, et ensuite je fais mon autre bloc. Puis je fais mon autre bloc. Puis je fais mon autre bloc. Ça peut, des fois, faciliter un petit peu la sensation, en tout cas, que c'est long. Je le sais, parce que je me rappelle sur des sorties type préparation marathon, type 24 heures, quand je voyais marqué qu'il fallait faire genre 3h, 3h30 hein, pour les sorties de 24 heures, quand je regardais le truc, je me disais, ouais, ça va faire tant de kilomètres. Vu comme ça, ça fait un peu longué. Hein, on se dit, ouh là, ça va faire longué. Donc, découper en petits morceaux, c'est un bon moyen. Ça peut être kilomètre par kilomètre. Ça peut être d'un objectif aussi à passer. De se dire, je vais jusque là. Et puis ensuite, je me fixerai un autre objectif. Alors, l'objectif, ça peut être la montée à laquelle on fait face à ce moment-là. Ça peut être une ligne droite. Notamment, par exemple, quand on est face au vent, on peut dire, là, c'est la ligne droite. Allez, je fais la ligne droite. Ou alors, même quand on est fatigué, allez jusqu'à la ligne droite. Jusqu'au prochain arbre là-bas, jusqu'au gros arbre. Hein, je vais jusqu'au gros arbre. Et ensuite, j'avise et je verrai ce que je fais. Donc là, je vais jusqu'à l'arbre. Hop, et après, tiens, jusqu'au virage. Ça ressemble un petit peu au fartlek. Hein. Vous savez, les fartlek, c'est on joue avec l'environnement en disant, bah, j'accélère jusqu'à l'arbre et puis jusqu'au virage, etc. Ben, on peut aussi s'en servir juste pour finir sa séance, en tout cas, pour ou couper la monotonie en disant, bah, tiens, je vais de petit objectif en petit objectif comme ça. Au lieu de regarder la chose dans sa globalité, je vais de petit objectif en petit objectif. Sur un marathon, vous pourrez vous dire, au lieu de regarder où il y a, par exemple, s'il y a un ravitaillement tous les 5 km, regardez la globalité de la course, vous pourriez vous dire, mon objectif, c'est juste d'arriver au prochain ravitaillement, et ainsi de suite. Donc c'est là comme ça, vous pouvez trouver, en fait, morceler finalement les ce qui vous paraît être un gros défi en petits morceaux, même quand vous êtes dedans, en vous allez, je fais plus qu'un kilomètre, je fais plus que 2 km. C'est une stratégie que j'avais utilisée sur mon 24 heures, notamment, en me disant, allez, là, je vais jusqu'au kilomètre 81, 90, là, jusqu'au kilomètre 100, kilomètre 100, hop, je fais de ça, je fais une pause, etc., puis je repars. Donc, ça marche, hein, franchement, c'est à vous de voir aussi ce qui fonctionne bien. C'est sûr qu'il y a des cas où c'est plus facile que d'autres, hein, ça dépend un petit peu des circonstances, mais en tout cas, c'est, je trouve quelque chose qui marche très très bien, et qui en tout cas permet de casser un peu la monotonie. Deuxième astuce, c'est l'auto-hypnose. Alors, je sais pas si c'est vraiment le mot, alors ceux qui font de l'auto-hypnose, vous me pardonnerez un peu pour le truc, mais c'est un petit peu comme ça que je l'appelle, parce que finalement ça devient hypnotique. C'est par exemple de compter. Alors on pourrait compter les moutons la nuit pour s'endormir, mais vous pourriez compter les pas, ou compter de 1 à 1000 ou de 1000 à 1 dans votre tête, à voix haute, etc. Mais vous pourriez compter juste le nombre de fois où vous posez le pied. Alors ça peut paraître comme ça un petit peu longué. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, votre cerveau va se mettre à compter tout seul, et puis une partie de votre cerveau peut se mettre à compter toute seule, et puis oublier en fait que vous êtes fatigué, oublier le fameux point de côté, oublier que ça fait un bout de temps que vous êtes parti, oublier que vous avez chaud, vous avez froid, ou je ne sais quoi. En fait, vous avez une sorte de focalisation sur quelque chose qui est finalement un truc qui se répète, sur lequel vous avez même plus besoin de réfléchir, et qui va détourner, ça c'est un détournement de votre attention finalement, au lieu d'avoir cette attention qui se focalise sur ce qui est difficile, sur la douleur, sur le vent, sur les conditions climatiques, sur le parcours, sur la distance, bah finalement vous focalisez sur un truc qui est totalement arbitraire. Hein, je dis, compter de 1 à 1000, pourquoi pas. Compter les arbres sur le bord du chemin, pourquoi pas. Ça pourrait être de compter les nuages, mais peut-être qu'il vaut mieux regarder où vous mettez les pieds, ça dépend où vous êtes. Compter les voitures qui vous doublent si vous êtes en ville. Compter le nombre d'arrêts de bus, je ne sais pas quoi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, on serait plutôt dans la première méthode. Mais compter le nombre de pas. Hein, tiens, j'ai posé le pied, comme je vois, je pose le pied. Et puis après, on peut se faire des petits calculs. Hein, dans l'auto-hypnose, on peut faire des petits calculs. On mélange la première stratégie et la deuxième en disant, bah tiens, pour faire en une minute, je vais faire tant de pas, et ben je vais compter les pas, et puis à chaque fois j'aurais fait 100 pas ou 200 pas, hop, je reviens, et puis comme ça on se retrouve à faire un objectif, puis 1 km, et puis 2 km, etc., en disant bah tiens, je redécoupe encore un petit peu. Mais c'est vrai que le fait de faire ça, bah quelque part on est un peu hypnotisé par les chiffres qui passent, par ce qu'on compte, plutôt que de penser exactement aux conditions dans lesquelles on est, ce qui est en train d'être dur à vivre, et que des fois on peut pas arrêter. Il y a des trucs qu'on peut arrêter, j'ai envie de dire. Par exemple, si on est en entraînement et qu'on a une ligne droite avec du vent de face, on peut dire, tiens, s'il y a un petit chemin sur le côté, pourquoi pas. Mais si c'est une course, je le répète, on peut pas le changer. Donc, on peut avoir cette technique-là qui peut nous aider en fait à passer le temps. Voilà, à passer le temps et à occuper notre cerveau à autre chose qu'à se focaliser en fait sur ce qui est difficile à vivre pour nous. Parce que rappelons-nous quand même que notre cerveau a toujours tendance à se focaliser sur ce qui est difficile et surtout trouver un moyen d'en fuir. Hein, que ça s'arrête, que ça se stoppe ce truc-là. Donc le fait de ralentir déjà est un moyen de diminuer un petit peu la difficulté, la douleur. Le fait de découper en morceaux est un autre moyen en fait de divaguer un petit peu les choses. L'auto-hypnose est un autre moyen. Et puis le troisième moyen est un peu différent. J'en avais déjà parlé. Moi, j'utilise beaucoup sur les trails quand c'est un peu long. C'est faire une sorte de balayage de son corps, hein, et de demander à chaque partie de notre corps comment il va. C'est un dialogue interne. Parce que peut-être si vous êtes tout seul, peut-être vous pouvez faire votre. C'est comme le coup de compter de 1 000. ou compter des choses comme ça. Peut-être que les autres peuvent vous regarder un peu bizarrement, ou peut-être qu'ils peuvent participer avec vous, mais je trouve que le balayage corporel, c'est un truc qui est assez drôle, qu'on fait beaucoup en méditation. Par exemple, si vous avez petit bambou, ça, en méditation, c'est les premières séances, c'est là-dedans. C'est juste, en fait, d'analyser toutes les parties de son corps et de demander à chaque partie de son corps comment il va. Alors, vous pouvez commencer par un orteil, petit orteil droit, comment vas-tu? Et puis, vous imaginez qui vous répond, je vais bien, écoute, d'accord. Et toi, l'orteil à côté, comment tu vas? Je vais bien et tout. Et puis vous passez comme ça, puis vous remontez, cheville, genou, et tout, peut remonter tout le corps et puis redescendre de l'autre côté et puis faire des allers-retours. Ça ressemble à l'auto-hypnose, hein, soyons sérieux, mais en même temps ça vous permet aussi de vous focaliser un petit peu en vous disant comment vont les jambes, comment vont les pieds, j'ai mal, j'ai pas mal, tout va bien. Et vous savez, j'avais parlé des mantras la dernière fois, on peut revenir après sur cette histoire de mantra, c'est de dire mon corps est pas parfait mais il fonctionne bien, et donc là je vérifie que tout fonctionne bien. Et puis s'il y a un truc qui fonctionne pas très bien, est-ce que je peux rajuster un petit truc, est-ce que je peux modifier. C'est un peu aussi un peu à l'esprit aussi de dire je respire. Hein, je fais un peu un bilan, je respire un bon coup, je fais le bilan un petit peu de tout ce qui va bien, de tout ce qui peut aller mal, de ce que je peux corriger, de ce que je peux pas corriger. Et en fait, sans qu'on s'en rende compte comme ça, ça fait passer le temps. Donc je répète en fait trois, quatre stratégies dont je vais vous parler. Premier, c'est peut-être de ralentir si vous pouvez, en tout cas pour faire passer certaines choses et pour affronter plus facilement certaines situations. Ralentir peut être très efficace sur le point de côté. De toute façon, on a une tendance à ralentir très naturellement. Les montées, on a intérêt à ralentir. Le vent, franchement, on peut se dire que des fois il faut ralentir, à moins qu'on soit sûr qu'à la fin on puisse se dire, si là j'accélère un peu et après j'ai plus de vent, ce qui est relativement rare, hein, et puis on ne sait pas à l'avance. Et puis ensuite, donc, c'est découper la sortie en petits morceaux, de fixer des petits objectifs, hein, comme ça, et puis se focaliser sur d'objectifs en objectifs. L'auto-hypnose, compter de 1 à 1000, compter ses pieds, compter des choses comme ça, et puis parler à chaque partie de votre corps. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette réponse vous aidera, vous donnera quelques outils pour passer les prochaines étapes un peu difficiles. Hein. Je le répète, on vit tous ces moments-là. Donc, on peut pas les éviter, forcément. Moi, je sais qu'il y a des situations que je préfère que d'autres. Je sais que quand il pleut très fort, des fois, j'adore ça. Pluie, vent fort, faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. Si ça dure toute la journée, on en a marre. Mais sur une petite courte séance, des fois, on a l'impression un peu d'être un peu un super-héros, comme ça, face aux éléments et tout. Et moi, je sais que j'ai une tendance à me galvaniser. Mais si ça dure trop longtemps, on en a marre. Et dans ce cas-là, il faut trouver des parades. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir ces outils-là avec nous, hein, pour les ressortir au fur et à mesure. C'est ainsi. Parce que des fois, on peut choisir les conditions, mais des fois, on choisit pas les conditions. Et des choses, hein, comme le point de côté, hein, qui est cité dans la question, là, franchement, c'est pas facile à faire passer, mis à part vraiment ralentir un petit peu. Alors, il y avait des astuces, vous savez, quand j'étais gamin, on disait qu'il fallait prendre un caillou, des choses comme ça, mais bon, moi je trouve que ralentir, c'est le meilleur moyen. Mais en tout cas, il faut trouver des moyens, hein, quels qu'ils soient, pour, si on se dit, je dois prévoir une sortie longue parce que je prépare une course particulière, je prépare un trail, je prépare un marathon, je sais pas quoi, je dois m'habituer à courir plus longtemps. Et puis c'est aussi, c'est avoir ces outils-là, c'est aussi vous parer, en fait, hein, pour les jours où vous êtes dans un défi, dans une course, vous avez un dossard ou je ne sais pas quoi, et être paré en fait aux éventualités, aux petits soucis d'ennui, de fatigue, de parcours que vous trouvez un petit peu fatigant, un petit peu lassant. Et il y a plein de cas où ça peut arriver. Je rappelle, hein, par exemple, que même sur le marathon de Paris, certains ont été étonnés par une montée sur le marathon pour tous en août. Je vous rappelle qu'il y a des sacrées montées. Et sur des courses, il peut y avoir du vent, il peut y avoir plein de conditions. Donc c'est bien d'avoir ces petits outils-là pour arriver à les gérer. Sur ce, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser, notamment sur mon compte Instagram @BertrandSoulier. Je mets souvent des foires aux questions, donc vous pouvez poser des questions ou m'envoyer un message privé, hein. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages privés. J'essaie de répondre le plus vite possible. Des fois, je vous réponds d'abord en privé et puis ensuite, je fais une réponse par le biais du podcast. Comme ça, il y a coup double et puis ça vous évite d'attendre moins longtemps ma réponse. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify. directement d'ailleurs sous l'épisode, hein, vous avez pour mettre un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Le conseil Samy du lundi, le mercredi un épisode inspirant avec un invité. Vous allez voir un chouette invité avec une manière de courir minimaliste qui est très très inspirante sur certains aspects et puis à des projets et des défis inspirants. Et puis la semaine prochaine, une nouvelle réponse à vos questions par le biais du conseil. Et on enchaîne ainsi de semaine en semaine pour vous aider à devenir champion et championne du monde, de votre monde. Ciao ciao mes champions et mes championnes.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.